On s'est intéressé spécifiquement à l'engagement violent féminin parce que les femmes ont été traditionnellement oubliées ou objectivisées, pas seulement dans les objets de recherche scientifiques, mais aussi dans l'espace public, donc dans les médias et le discours politique. Alors moi, je vais faire la partie empirique sur les femmes dans l'État islamique, et Eric va se concentrer sur les femmes sous le nazisme. Donc, à titre d'exemple, quand on regarde un peu les chiffres, le pourcentage de femmes qui sont parties en Syrie ou en Irak rejoindre ISIS et plus tard donc ce qui devient l'État islamique avec la prononciation du califat. Le pourcentage de ce qu'on appelle les foreign fighters dans la littérature, donc les combattants étrangers, hein, le système anglophone fait moins la différence du coup entre femmes et hommes de ce côté-là. La plupart des études publiées en 2014-2015 disent qu'il y avait 10 à 20% de femmes. Plus tard, Europol, donc basée à Lyon, l'agence européenne de police, publie une étude qui montre que, par exemple, rien que sur les arrivants danois en 2016, plus de 40% sont des femmes. Donc voilà, il y a des disparités aussi au sein des combattants étrangers européens. Il y a des disparités également, il y a énormément de femmes qui sont parties d'Arabie Saoudite, etc. Bon. Ça, c'est une partie du discours. L'autre partie, c'est on voit un net engouement des médias depuis 3 à 4 ans autour des femmes qui ont émigré. Alors, pas les femmes locales, hein, les Syriennes et Irakiennes qui étaient déjà sur le territoire, elles sont toujours invisibles, mais il y a un début de visibilisation de l'engagement féminin dans les médias depuis 3-4 ans. Et on remarque, par exemple, que c'est lié à des développements récents dans les pratiques du groupe, hein, ce que je vais traiter après dans la partie empirique. Il y a également tout un tas de produits pop culturels qui se sont intéressés à ces thématiques. Vous avez peut-être entendu, dans le cas de l'État islamique, des récits, alors qui se présentent presque sous la forme documentaire, mais qui sont des fictions. L'un réalisé par Channel 4 pour la BBC en Grande-Bretagne, qui s'appelle The State, l'État. Une fiction en 4 épisodes qui sont centrés sur la vie de 4 hommes et femmes britanniques partis pour la capitale de l'État islamique, Raqqa, et une série encore plus polémique, Black Crows, donc les corbeaux noirs, hein, en référence aux femmes qui porteraient le niqab, qui ressembleraient à des corbeaux noirs. C'est une série qui, là, pour le coup, on est à sa deuxième saison, qui a été réalisée et produite par NBC, qui est une chaîne d'Arabie Saoudite, et qui a été diffusée pendant le Ramadan 2017, donc un choix assez révélateur, et centré autour de la vie de 9 femmes dans l'État islamique. Et je cite le producteur de cette série, il parlait de « sex and jihad at prime time », donc de présenter la sexualité, le jihad, aux heures parfaites, puis en plus pendant le Ramadan, donc où les gens auraient plus de temps pour regarder ça. Alors, de fait, on remarque qu'il y a un décalage profond entre l'attribution genrée des rôles dans les représentations politiques, médiatiques et même, comme Eric le disait, scientifiques, en tout cas en sociologie politique et en sciences politiques, et la diversité et la réalité des rôles remplis par les femmes, notamment dans l'État islamique, mais on le verra aussi dans le nazisme. Alors, ce qui nous a un peu gênés, c'est que on ne fait pas parler ces femmes sur leur engagement politique. Et alors on s'est dit, dans une perspective de recherche féministe, cette idée où on visibilise les femmes sans leur attribuer une autonomie politique, on pourrait résumer ça, ces pratiques discursives, comme la nature genrée, là je reprends une citation de Laura Sjöberg, qui a beaucoup travaillé sur le terrorisme, la nature genrée des représentations de la violence genrée. De fait, il y a une vision doublement genrée qui est proposée dans ces discours. Non seulement les femmes ne seraient pas intéressées par la participation dans la violence politique, hein, on entend beaucoup dans les médias, elles chercheraient juste une romance avec un djihadiste, trouver le prince oriental, etc. Mais qui plus est, on leur aurait lavé le cerveau pour les attirer jusqu'à Raqqa ou à Mossoul. Donc elles n'auraient ni motivation politique à rejoindre le califat, et plus encore, aucune autonomie. Alors, on va tenter une communication, du coup, qui se pose en contrefond de ça. les liens avec le thème du colloque, pour nous, comme l'a dit Eric, hein, c'est de montrer qu'on veut rendre compte de l'engagement politique de ces femmes pour la violence extrême, sous régime totalitaire. Et donc, c'est essayer de reconstruire des discours peu visibles, en creux, complexes et souvent dérangeants, hein, pas seulement pour les institutions, mais aussi en tant que chercheurs et chercheurs... femme pour ma part, c'est d'autant plus difficile aussi que dans une perspective de recherche critique féministe, il s'agissait pour nous de ne pas réifier ces femmes, leur engagement, mais bien de les considérer en tant qu'agents autonomes qui ont fait le choix de rejoindre le califat en essayant de tenir à la fois une problématique d'émancipation et une problématique de soumission dans un même engagement. Ce qui rentre fondamentalement, en tout cas pour nous, en conflit avec une notion de liberté radicale du monde libéral. Alors, on s'est aidé de la littérature qui existe, en tout cas en sciences politiques, sur ce sujet depuis au final longtemps, hein, et notamment des travaux de Laura Sjöberg, que vous voyez à l'écran, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Women Fighters and the Beautiful Soul Narrative », donc les femmes combattantes et le récit de la belle âme. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette notion de récit de la belle âme. Alors, en fait, elle va s'intéresser au décalage entre l'image de femme innocente et s'abstenant du fait guerrier que portent politique, médias et discours académiques, et l'expérience bien réelle des femmes en tant que soldats, combattantes, insurgées, etc. Elle nous montre que leur participation est toujours considérée comme contre nature, relevant de la normalité. Pourquoi ? Eh bien, Sjöberg nous dit que l'engagement violent féminin, au final, ça remet en cause un élément fondamental de la pratique de la guerre et au-delà de la subordination sociale, politique, etc., fondée sur le genre. Elle nous dit que cet élément qui se retrouve à divers degrés dans ses discours politiques, médiatiques et même académiques, c'est donc le récit de la belle âme, qui est constitué par trois éléments qui se retrouvent des pratiques antiques de la guerre jusqu'à nos jours. Le premier élément, ce serait que les femmes sont différentes des hommes. On va retrouver ça après dans nos parties empiriques. Elles seraient par nature innocentes et pacifiques. Leur identité serait liée à leur rôle de mère, en tout cas dans leur potentialité, et à leur fragilité par nature. Deuxième élément, la séparation discursive entre une sphère privée de paix et une sphère de la guerre serait extrêmement nette dans ces récits. Les femmes appartiendraient naturellement à la première, la sphère privée, celle de paix, et les hommes à la seconde. Si certaines femmes se retrouvaient dans la sphère de la guerre, il s'agirait d'une situation malheureuse à supporter tout au plus temporairement. Troisième élément, les femmes constituent à la fois la juste cause pour laquelle les hommes font la guerre, pour protéger leur belle âme, et la raison pour laquelle ils luttent pour la paix, donc leur permettre de retourner à cette sphère de paix, la sphère privée. Sjöberg nous dit, dans ce récit hégémonique de la relation des femmes à la guerre, les femmes n'auraient pas de place au combat, hein, traditionnellement. Ceci est d'autant plus vrai dans les régimes totalitaires qui poussent le conservatisme et la misogynie à l'extrême, en tout cas c'est notre argument, et ceci pour des raisons structurelles. La première, c'est le rejet de l'individualisme libéral et la valorisation du collectif, quelque chose qui a été la trame, hein, beaucoup de ce colloque. Les individus ne sont pas considérés ici comme libres, mais comme déterminés par des facteurs extérieurs, que ce soit respectivement une doctrine religieuse, la nature, la race, etc. Et d'autre part, les besoins de survie et de croissance de ces collectifs primeraient sur les besoins des individus. Deuxième raison structurelle à notre sens, c'est ce que Eric mentionnait au début de cette communication, le recours à des récits du héros protecteur, ou dans le parler de Sjöberg, récit de la belle âme, qui serait un élément constitutif pour assurer au final la stabilité de l'ordre politique totalitaire, hein, dans lequel la violence est un principe d'organisation, et les femmes y constitueraient typiquement un objet à protéger par les institutions et les leaders. Troisième raison structurelle à notre sens, c'est que les univers totalitaires évoluent dans et souvent renforcent des ordres patriarcaux préexistants en modifiant ou limitant les voies d'ascension sociale et professionnelle des femmes. Alors, si on fait un bref tour d'horizon de l'engagement féminin dans la violence terroriste, on se rend compte qu'au cours de l'histoire, il y a eu des femmes dans toutes, et je dis bien toutes, les organisations ayant utilisé des tactiques terroristes. D'extrême droite, de gauche radicale, catholiques, protestants, hindous, même bouddhistes, et musulmans fondamentalistes. Donc, là, on peut citer Sjöberg, Gentry, etc. Il y a beaucoup de travaux à ce sujet. Et même si on pense aux groupes militants islamistes contemporains, tous ont eu des filles et des femmes activistes pour des opérations, par exemple, de suicide à la bombe. Alors, parmi les plus récents, Boko Haram, Al-Shabaab, Jabhat al-Nusra, même Al-Qaïda, qui pourtant a longtemps refusé, les talibans afghans et pakistanais, le Hamas, la brigade Al-Aqsa en Palestine, etc. Bien que ces recherches, comme je dis, soient relativement ancrées dans le champ académique, en tout cas en sciences politiques et en relations internationales, on trouve également de très nombreux travaux en sciences sociales, et encore plus dans les médias, qui reproduisent toujours donc, les stéréotypes de genre liés au récit de la belle âme, sous une forme directe ou indirecte. Alors, par exemple, dans les médias, on lit beaucoup d'articles, alors, quand ils thématisent les femmes, sur ce que les femmes de l'État islamique qui surveillent les prisonniers ou les esclaves sexuels du régime procèdent à des châtiments corporels qui seraient sanctionnés par les institutions. Et dans ce cas-là, elles sont présentées comme des femmes perturbées, tordues, voire perverse, elle dérogerait à la normalité qui serait pour les femmes d'être des êtres doux et non violents. Et puis dans le milieu académique, cette thématisation indirecte du récit de la belle âme, ce serait par exemple la recherche de chocs émotionnels. On expliquerait ça par des traumatismes dans l'enfance, l'expérience de viol en tant que mineur, etc. Et ou des troubles psychiques pour expliquer la violence politique au féminin. Alors ce récit-là, on ne le nie pas. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il est utilisé quasiment uniquement pour parler de la violence politique des femmes. Et c'est une grande différence par rapport au discours porté sur la violence politique des hommes.
Donc, comment on a structuré notre recherche? En fait, on a choisi trois facteurs qu'on va essayer d'analyser de façon séparée, mais on sait très bien que ce sont des facteurs qui s'influencent mutuellement. Donc, vous voyez ça dans le schéma de la droite. Donc, tout d'abord, oui, bien sûr, il faut examiner un peu les discours idéologiques sur le rôle des femmes dans ces univers. Mais ces discours idéologiques sont jamais complètement cohérents et donc peuvent être modifiés, instrumentalisés, déjà par les femmes elles-mêmes qui veulent s'engager, mais aussi donc par les besoins concret et dans la pratique concrète d'un régime violent, totalitaire. Donc, on va essayer de voir à quelles limites idéologiques les femmes qui veulent s'engager se heurtent pour justifier leur engagement. Quel est l'espace discursif qui permet ou limite aussi leur engagement? Quelles sont les pratiques concrètes et observables des femmes dans ces univers? On va voir que ça varie, que les femmes dans l'État islamique ont parfois peut-être plus de rôles disponibles que dans les nazismes. Par quelle stratégie discursive les femmes construisent elles-mêmes la légitimité de leur espace d'action? Donc, espace d'action, c'est un concept qui est assez utile parce que ça permet de dire que les femmes ont toujours des moyens d'action, mais que cet espace, le moyen du possible, peut varier dans le temps et dans l'espace, donc, et à travers les contextes idéologiques spécifiques. Et comment les femmes, concrètement, parlent de leur statut de femme elles-mêmes? Est-ce qu'elles problématisent ce statut? Est-ce qu'elles essaient de réinterpréter ce statut? Ou est-ce que le statut est effacé complètement au profit d'autres concepts idéologiques qui leur permettent de faire abstraction de leur statut de femme? Méthodologiquement, on a une démarche herméneutique et comparative. Donc, j'ai dit clairement, on n'essaie pas de faire des généralisations universelle parce que l'accès aux sources est difficile. Il y a très peu de témoignages directs de femmes qui sont engagées directement dans les univers violents. Donc pour les nazismes, il y a beaucoup de témoignages de femmes après 1945 qui essayent de dire pourquoi elles étaient gardiennes de camps. Mais évidemment, ce discours n'est pas forcément un discours vrai dans le sens où le régime a complètement changé. Ce sont des femmes qui veulent justifier et peut-être aussi minimiser leur rôle. Donc on a essayé quand même de regarder des sources, témoignages de femmes qui sont à l'époque qui étaient ou qui sont encore concrètement engagées. Et évidemment, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas forcément... On ne dit pas que nous, on va représenter l'ensemble des discours des femmes qui s'engagent dans ces univers. Alors pourquoi est-ce qu'on a comparé le nazisme et l'État islamique? Parce que c'est quand même deux périodes très différentes. Ce sont deux univers avec une vision totalitaire, notamment qui tendent vers l'effacement de la liberté et l'autonomie des individus. On a déjà parlé d'autres participants de la nature totalitaire du discours de l'État islamique. Ce sont aussi deux univers qui prêchent la priorité du collectif politique et qui prévoient, en tout cas dans leur projet idéologique, une exclusion institutionnelle des femmes des espaces politiques. Donc ça, je pense qu'on peut être d'accord. Par contre, ce sont évidemment deux contextes divergents. Le nazisme s'est développé en Allemagne après la Première Guerre mondiale, en même temps qu'un des mouvements féministes naissants qui sont développés à la fin déjà du 19e siècle, mais surtout pendant les années 20, il y a eu des mouvements féministes assez importants en Allemagne. Mais en même temps, il y avait aussi des milieux hyper conservateurs très puissants en Allemagne de la République de Weimar. Donc déjà, ça, on va voir, ça, en quelque sorte, détermine aussi le champ possible du discours idéologique nazi. Pour l'État islamique, c'est un système politique qui s'est développé dans deux sociétés en guerre civile, la Syrie et l'Irak, qui mobilisaient surtout des femmes qui sont émigrées vers le territoire de l'État islamique, qui, on l'a vu déjà, qui rejettent souvent le féminisme occidental pour diverses raisons. Et entre ces deux univers, il y a une différence ontologique majeure dans le discours sur le rôle des femmes. Alors, dans le discours du nazisme, c'est basé sur une conception ontologique du monde scientiste. Alors, évidemment, avec des traits religieux, on l'a entendu, mais en tout cas, de mon point de vue et de d'autres historiens, l'idée fondamentale, c'est quand même c'est que c'est la nature, donc l'observable, le monde biologique observable qui détermine le comportement des êtres humains et des sociétés. Et donc aussi les genres, donc hommes et femmes, parce que évidemment il n'y a pas de place pour les genres intermédiaires. Ces genres, leur action est déterminée par la nature et la race. Donc, ce sont aussi les individus, même, ce n'est pas une question des croyances des individus ou de leur adhésion ou pas, c'est les individus agissent parce que la nature les a fait de telle ou telle manière et il faut accepter ça, et sinon c'est la mort du collectif. Et, voilà. Par contre, dans le discours de l'État islamique, alors il y a plutôt un discours religieux, alors encore, on peut discuter, mais à mon avis, nostalgique, qui prévoit un retour au monde idéal du prophète. Et là, dans ce monde, ce sont la différence des genres est déterminée par Dieu, mais donc ça laisse peut-être un peu plus de marge de manœuvre, parce que une femme peut se conformer plus ou moins à la doctrine de Dieu. C'est possible pour une femme de ne pas être croyante et donc de dévier de son statut de femme, mais il faut la combattre, évidemment.
Concernant les sources, donc on a essayé de travailler sur des données primaires. Et donc, comme Eric l'a souligné, il y a relativement peu de sources textuelles sur lesquelles on peut travailler, mais on a tous les deux travaillé sur des sources donc écrites, dans mon cas des manifestes, des magazines de l'État islamique, une lettre de femme adressée au calife et une vidéo officielle. Eric a travaillé sur des récits biographiques, des discours publics, des images et puis des témoignages issus de travaux historiographiques. Alors on peut revenir là-dessus après, mais comme le temps est limité, pour le moment on continue. Donc je vais commencer la partie sur l'État islamique. Alors, ce qui est intéressant donc dans cette espèce de triangle qu'on a voulu symboliser, que vous avez vu dans les slides auparavant, c'est que du fait qu'on avait très peu de données, à comparer d'autres sujets qu'on a pu traiter, concernant le discours des femmes elles-mêmes, on a commencé par le discours institutionnel que l'on a mis un peu en exergue vis-à-vis des pratiques, par contre, observables hein, sur le terrain, de rôle de ces femmes, et puis d'essayer de reconstruire leur engagement de cette manière-là et compléter par des discours alors très courts, hein, des tweets, etc., des entretiens biographiques qui sont parus dans la presse ou dans des articles scientifiques, et puis également donc cette lettre ouverte, par exemple, des femmes de la Daoula. Alors, je commence donc par le discours institutionnel. Ce qui est intéressant, c'est que on remarque tout d'abord, avant de rentrer plus en détail, il y a des profils sociologiques extrêmement variés hein, dans les femmes qui sont parties d'Europe, du Golfe, des États-Unis d'Amérique, d'Asie, d'Australie, pour rejoindre l'État islamique. Ensuite, donc, des motivations hommes-femmes très peu différentes au final. Hein. Elles sont à la fois politiques et personnelles dans les deux cas. Alors on pourra y revenir, comme ce n'est pas le centre de notre propos, je continue. Quelque chose qui a été très bien montré aussi, c'est que la majorité de ces femmes n'a pas été forcée à partir, hein. Elles sont parties en grande majorité de leur plein gré, et après une longue réflexion, souvent les processus de départ des femmes étaient beaucoup plus longs que ceux des hommes. La majorité se réclame d'une idéologie salafiste, et donc dans ce cas-là éminemment politique, et elles remplissent différents rôles, ce qui a été très bien montré aussi dans la littérature, qui ne se limitent pas à la femme à la maison. Alors, dans le discours institutionnel de l'État islamique, quel est le rôle des mohajirat, donc des femmes émigrées vers l'État islamique? Alors, elles n'ont pas, selon les institutions, de rôle actif, seulement des rôles de soutien, comme femme à la maison, comme mère, comme épouse. Donc, elles sont censées apporter un soutien émotionnel, idéologique et logistique aux hommes qui, eux, seraient destinés à aller au combat. Donc, selon les institutions, c'est une attribution de rôle particulièrement genrée. Ce qui est intéressant, c'est que de multiples documents de propagande expliquent ce rôle et ses déclinaisons. Alors, dans Dabiq, hein, que tout le monde connaît au moins de nom, qui était le magazine jusqu'à l'été 2016 de l'État islamique, puis dans Roumia, qui a pris la suite à partir de septembre 2016, et dans Al-Naba, un journal qui est déjà un peu plus ciblé sur les femmes. Réaffirme donc les trois ce rôle de soutien. Alors, la femme au foyer, elle est censée participer à la lutte armée d'une manière très différente des hommes. Il faut savoir quand même que dans le discours de Daesh, les femmes peuvent obtenir une place au paradis si leurs époux et leurs fils meurent en héros. Hein. Mais elles peuvent également améliorer leur statut en, par exemple, donnant leur argent, quelque chose qu'on retrouve souvent dans Roumia. En tant qu'épouses, elles sont là pour soutenir leur mari, idéologiquement, logistiquement et émotionnellement, comme j'ai dit avant, l'encourager à se sacrifier au combat pour Allah. Ça, on retrouve ça dans le second magazine de Roumia. Et en tant que mère, elle a la responsabilité des enfants, donc comme dans la plupart des sociétés, mais non seulement d'être un modèle pour eux, de les nourrir et de les habituer à une vie rude, ascétique, mais aussi de les éduquer donc dans la langue arabe et les éduquer dans le vrai islam, donc l'islam salafiste djihadiste. Alors, les élever dans l'amour du califat, la normalité de la violence et la certitude que ce monde n'est que transitoire, hein, que la dunya, donc ce monde ici-bas, n'est pas quelque chose de désirable, mais qu'à l'inverse, il faut commencer à accumuler des bons actes pour son entrée au paradis, lors du jugement dernier. On constate cependant un changement d'interprétation, petit à petit, très très lent, qui commence par un manifeste publié par la brigade exclusivement féminine, manifeste Al-Kansa, qui mentionne pour la première fois que les femmes pourraient combattre si l'ennemi attaque leur pays. Donc uniquement dans le cas de défense. Juste après, des activistes islamistes diffusent un traité de la fondation Zora sur les femmes et la guerre, dans lequel il est écrit que les femmes peuvent se battre dans des circonstances où elles devraient se défendre. Donc si leur maison, à Raqqa, est attaquée, par exemple. Puis, de nombreux articles se développent à ce sujet, jusqu'à un article de Roumia publié en juillet 2017 qui ouvre la brèche, un article dédié spécifiquement aux sœurs et qui nous dit que il faut se lever, résister avec courage et sacrifice en tant que femme juste, comme les femmes l'ont fait au temps du prophète, non pas à cause du nombre faible d'hommes au combat, hein, ce qui a été beaucoup repris dans la presse occidentale. L'État islamique acculé fait appel aux femmes. Eux disent non, ce n'est pas à cause du nombre faible d'hommes, mais parce que les femmes, elles aussi, portent un amour pour le djihad. Ensuite, un article de Al-Naba en octobre 2017 nous dit que le djihad défensif devient obligatoire pour l'ensemble des femmes résidant dans l'État islamique. Et puis, le véritable tournant, c'est la visualisation de femmes au combat. Le 7 février 2018, le Alayat Media Center, donc l'organe officiel médiatique de l'État islamique, publie une vidéo qui s'appelle « Inside the Khalifa », le numéro 7, parce qu'il y en avait déjà eu un certain nombre avant, qui fait à peu près 20 minutes, et qui nous montre deux femmes déployées sur champ de bataille, dans des unités mixtes et avec des armes à feu. Et le texte qui accompagne ces images, alors on les voit très rapidement, hein, en tout et pour tout, ça prend 45 secondes. Elle nous dit que les chastes mujahidin, donc les femmes qui combattent pour Allah, parées des vêtements de la pureté et de la foi, cherchent à venger pour leur religion et l'honneur de leurs sœurs et tuer les Kurdes apostats. Alors, on retrouve depuis un certain nombre de vidéos qui vont en ce sens. Il faut surtout constater, au final, un développement du discours institutionnel, mais quand même, qui est très en décalage avec la variété des rôles qu'on retrouve dans l'État islamique. Alors, quels sont ces rôles ? Un bref tour d'horizon. Alors, les femmes n'ont pas seulement des rôles passifs ou de soutien, hein, dans l'État islamique, mais elles ont rempli des rôles actifs très divers au sein de l'organisation et de son proto-État. On a dénombré au moins 7 rôles liés activement à la violence politique. Alors, certaines ont été recruteuses pour l'organisation et plus tard pour l'État islamique. Recrutées sur les réseaux sociaux, elles ont parfois aidé à financer le départ d'autres jeunes femmes. Et ce rôle de recruteuse est soutenu par l'organisation, puisqu'elle autorise uniquement les femmes étrangères à accéder à Internet, hein, donc activement à poster sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a eu de nombreux exemples sur lesquels peut-être qu'on aura le temps de revenir. Ensuite, il y a eu celles qui étaient encadrantes et exécutrices, qui participaient à l'encadrement des nouvelles migrantes, qui veillaient à leur instruction, la connaissance des règles de moralité au sein du califat, qui encadraient les esclaves féminines de l'organisation. Il y a eu les logisticiennes au front, hein, des soldats kurdes et arabes combattant l'État islamique sur le terrain, rapportent dès début 2014 avoir vu des femmes sur le terrain, au front, non pas dans des positions de combat, mais en tant que logisticienne. Il y a eu des brigadières au sein de la brigade Al-Qansa qui a été très médiatisée et une qu'on connaît un peu moins qui s'appelle Oum al-Rayyan, qui est une force de contre. Donc les deux sont des forces de contre-insurrection exclusivement féminines, créées par ISIS dès début 2014 et qui étaient à l'origine là pour aider au contrôle des frontières du califat. Donc pour fouiller les femmes, puisque à un certain moment, on a vu des attentats à la bombe commis par des hommes déguisés en niqab, donc de fait pour fouiller les femmes et prévenir ce genre d'attentats. Elles reçoivent tout un entraînement militaire, elles patrouillent les rues du califat en armes pour réprimer les conduites déviantes et policer les autres femmes. Il y a eu des kamikazes, des opérations d'attentats suicides, commis par des femmes, notamment à Mossoul en 2017, alors assiégée par les forces irakiennes. Il y a eu également des chefs de bataillon, de bataillons composés uniquement de femmes. Alors la chef la plus connue, c'est Nada Al-Qahtani, qui vient d'Arabie Saoudite, qui a rejoint l'organisation en décembre 2013, donc très tôt, et qui a prêté aussi très tôt serment d'allégeance à Al-Baghdadi, et qui écrit beaucoup sur Twitter et dit qu'elle souhaite devenir un martyr lors d'un attentat suicide. Elle n'aura pas ces chances-là. Par contre, Al-Baghdadi va la nommer leader de la brigade Al-Qansa à Raqqa. Et Baghdadi la rencontre plusieurs fois au cours de ce poste-là. Et puis en 2016, il la nomme officiellement en qualité de commandante d'un nouveau bataillon entièrement féminin qui combat au nord-est de la Syrie, donc une région particulièrement militairement particulièrement difficile, à Azaké. Donc, et le dernier point, c'est une des fonctions politiques, c'est encore moins connu, Oum Abdulrahman, qui était marocaine, qui est un peu la chef de la branche féminine de la Hizbah à Abu Kamal, l'agence pour l'application de la charia, donc une fonction éminemment politique. Et puis Nasrin Assad Ibrahim, connu en tout cas dans les médias occidentaux, sous le nom de Oum Sayaf, qui a été mariée au dirigeant de l'État islamique qui s'occupait de la gestion du gaz et du pétrole. Gestion des infrastructures critiques, Abu Sayyaf, qui sera tué lors d'un raid américain en mai 2015, et qui, donc cette femme, elle, avait la charge de l'otage américaine Kayla Mueller, travailleuse humanitaire, qui sera torturée et utilisée comme esclave sexuelle pendant plus d'un an par Al-Baghdadi et le propre mari de Nasrin Assad Ibrahim. Et cette femme, outre le fait de garder les prisonnières sexuelles occidentales de ces deux hommes, était la principale chef des affaires féminines au sein du califat, en tant que conseillère spéciale. Alors, quels sont les discours des femmes elles-mêmes pour justifier leur engagement? Alors, il y en a certains qui sont très actives sur Twitter, donc on a beaucoup de bribes de discours. Khadija Dair, qui est partie pour l'État islamique avec un bébé, qui depuis a été pris en photo par elle-même très souvent avec des AK-47, habillée en uniforme à l'âge de 3 ans, et qui nous dit vouloir tuer les koufars dans des vidéos assez fréquentes. Khadija Dair nous dit elle est partie vers l'État islamique et elle s'est mariée à un militant de Suède, Abou Bakr. Elle dit « Je ne trouvais personne au Royaume-Uni qui était prêt à se sacrifier, qui était prêt à sacrifier sa vie ici pour la vie d'après, hein, toujours dans cette logique salafiste. Donc c'est pour ça qu'elle est venue dans l'État islamique pour se marier donc à un Mujahideen. Et ensuite elle a dit cependant si mon mari meurt, je resterai ici parce que je ne suis pas venue pour lui. Mais donc bien, si on traduit, pour vivre dans l'État islamique. Par choix, par engagement politique. De la même manière, on trouve des discours similaires chez d'autres femmes, Aksa Mahmoud, qui était la chef de la brigade Al-Qansa plus tard. Et puis on retrouve ça beaucoup dès février 2018 dans des lettres adressées au chef de l'État islamique, et notamment sur le profil Telegram français de la foi militante, qui est un groupe extrême dirigé par Oum Abdullah et Oum Abdulrahman, donc celle qui dirigeait par ailleurs la branche féminine de la Hizbah Abu Kamal, et qui nous dit... Alors, on a sélectionné quelques extraits. « Notre problème, c'est qu'on est des filles, mais nous ne sommes pas comme les autres filles. Nos soucis sont différents de ceux des filles. Plus loin, et la plus grande de nos espérances, ce serait la mort en martyr. Ne dites pas, vous êtes des femmes, car on le sait, mais nous sommes des femmes avec des âmes d'hommes. » Donc, la lettre continue, et ce qu'on peut voir, c'est que dans leur propre discours, bien qu'elles se considèrent comme mères, femmes et en grande partie aussi ont ce rôle de femme au foyer. Elles ont d'autres rôles, la plupart ont 2 à 3 rôles, et elles veulent la même chose au final que les hommes, dans leurs propres mots. Suivre le chemin d'Allah, mourir au combat, et être au paradis parmi les shuhada, les martyrs morts en remplissant leur devoir religieux. Donc il y a une demande d'égalité, au sens d'égalité d'opportunité, tout en se soumettant à Allah et en s'émancipant vis-à-vis des hommes. Donc elle retourne en partie le récit de la belle âme. Il ne faut pas se tromper, au-delà de leur corps de femme, elles ont des âmes d'hommes, je recite, et peuvent se battre comme eux pour les mêmes raisons, protéger femmes, enfants et patrie.
Ok, donc en 5 minutes, le rôle des femmes dans l'univers nazi. J'ai récapitule un peu... l'histoire de l'historiographie des femmes dans le nazisme, parce que c'est important aussi pour savoir comment, pourquoi la recherche a évolué dans ce domaine. En gros, c'est un peu, on retrouve le même schéma qu'on a déjà annoncé au début. D'abord, les femmes ont été considérées un peu comme soit des victimes ou soit des bourreaux pathologiques. Donc, il n'y a pas d'espace pour des femmes qui, pour des raisons rationnelles, entre guillemets, mais... par exemple des motivations personnelles, intérêts personnels, s'engagent dans le nazisme. Ça a changé lentement, donc notamment à partir des années 80, quand on a commencé à prendre au sérieux les femmes en tant qu'acteurs sociaux dans l'histoire qui, pour des raisons diverses, peuvent trouver... des raisons d'engagement dans le nazisme. Et donc, notamment dans les années 90, on a commencé à introduire ce concept des espaces d'action pour parler des femmes dans le nazisme, pour parler de différents rôles, aussi la variation dans ces rôles. Quel est un peu le discours sur les femmes au sein du discours nazi officiel, en tout cas comme... tel qu'il est défini par Hitler. J'ai déjà dit, c'est pas un univers toujours logique et complètement cohérent, mais on peut dire, bon, Hitler, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, c'est un peu, ça représente la ligne officielle. Et clairement, Hitler dit encore, en 1936, le monde de la femme, c'est la famille, l'homme, le mari, les enfants et la maison. Voilà. Point. Il n'y a pas de... pas de dire, voilà, les femmes peuvent aussi avoir des rôles politiques, peuvent peut-être enraciner le nazisme dans la société. C'est très clairement, Hitler s'est jamais vraiment intéressé aux femmes. Il considérait que les femmes n'ont pas, biologiquement, sont pas capables de parler politique, comprendre la politique, etc. Alors, je vais pas parler du reste, on n'a pas le temps, mais en tout cas, ça, c'est l'idée principale. Les femmes sont déterminées par leur nature. La seule chose, en fait, les femmes peuvent être libres à retrouver justement ce dont elles sont capables dans le nazisme. Le nazisme le valorise. Et donc, en quelque sorte, le nazisme se considère aussi comme un mouvement de libération pour les femmes parce qu'il n'impose pas le rôle des hommes que, par exemple, le féminisme libéral. Donc, c'est un peu... Je ne dis pas c'est comme ça, mais c'est un peu la logique du discours officiel. Alors bien sûr, dans le nazisme, la catégorie principale, c'est une catégorie biologique, c'est la race. Donc, le discours principal au cœur de l'idéologie, c'est la supériorité biologique du peuple allemand vis-à-vis les autres races. Ce qui peut impliquer aussi, là c'est qu'on commence les contradictions internes, ce qui peut impliquer que donc, comme tous les membres de la race allemande sont supérieurs aux autres races, les femmes allemandes aussi peuvent être supérieures aux membres des autres races, donc y compris les hommes n'en a rien, les hommes slaves, etc. Et donc, il y a certaines femmes qui sont des femmes, des féministes nazies, qui disent, en fait, c'est pas justifié d'exclure les femmes allemandes d'emblée des fonctions de leadership parce que on est aussi des Allemands, des Allemandes, on a la même vocation à être la race supérieure, donc dans l'intérêt de la survie du collectif et pas du tout dans l'intérêt des femmes individuelles, mais dans l'intérêt du collectif, il faut pouvoir admettre des femmes dans les fonctions de leadership politique et militaire. Et le discours officiel, ou la politique officielle, intègre ça dans une certaine manière en disant que oui, les femmes peuvent être envoyées dans les futurs pays aux territoires colonisés, notamment dans l'Est, en tant qu'éducatrices, donc pour apprendre à la population locale à être des serviteurs, à être des ouvriers, à être dociles. Donc là, il y a une certaine acceptation de ces discours, mais il n'est jamais officialisé. Donc cette féministe nazie, Sophie Rogge-Börner, elle est complètement minoritaire et en 1939, Goebbels fait interdire sa revue parce qu'elle est considérée comme un peu dangereuse. Et en effet, dans la pratique institutionnelle, les femmes sont exclues avant et après 1933. Donc officiellement, les femmes peuvent adhérer au parti nazi, mais elles sont interdites d'assumer des fonctions de leadership locales, régionales, nationales. En même temps, dès 1933, l'État nazi essaye de valoriser symboliquement et matériellement le rôle maternel ou la fonction maternelle des femmes. Il y a la fête des mères, le Mutterkreuz, etc. Il a interdit aussi l'avortement en 1933 et donc il fait la publicité pour les activités de la femme au foyer par la propagande et par des organisations caritatives. En même temps, dans la pratique, cet État a quand même besoin de légitimer son existence, aussi dans les yeux des femmes. Donc, il encourage quand même des activités publiques, mais non politiques, qui dépassent un peu le cadre de la maison. Donc, c'est notamment au sein du NS-Frauenschaft, l'Organisation des femmes nationales-socialistes, où on encourage les femmes à se réunir, à suivre des cours de, par exemple, de gestion du foyer ou de cuisine, etc. Donc il y a quand même une sorte de dimension publique des pratiques des femmes au sein du national-socialisme. Et donc pendant la guerre, puisqu'il manque des hommes, parce que les hommes sont envoyés au front pour se battre, il y a un élargissement justement des espaces d'action pour les femmes. On n'admet pas les femmes dans le rôle de combat. Il n'y a jamais eu de soldats féminins au sein du nazisme, contrairement au contexte de l'État islamique. Mais par exemple, on introduit un service de travail obligatoire pour les femmes à partir de 1937. On militarise l'éducation publique des jeunes femmes au sein donc du BDM. Et notamment à partir de 1943, quand la guerre devient critique, on sent une pénurie de ressources. Les femmes sont de plus en plus admises dans les fonctions semi-militaires, comme la défense aérienne. On crée un corps SS féminin, mais où les femmes sont plutôt des secrétaires, des assistantes de communication, mais il n'y a pas de division SS féminine. Et certaines femmes sont aussi envoyées dans les territoires de l'Est pour, par exemple, surveiller les camps d'extermination et dans certains cas, participer à l'extermination des populations. Alors, juste une minute encore, comment ces femmes justifient leur engagement? Alors, j'ai examiné les femmes qui ont adhéré au parti nazi avant 1933, qui ont envoyé des récits autobiographiques dans les années 30 à un sociologue américain qui a organisé une compétition de publication. Alors, ce qu'on voit à travers, ça se ressemble beaucoup à travers ces récits, j'ai lu 36, ce sont souvent des femmes qui proviennent de contextes des espaces d'action assez limités, donc soit matériellement, soit socialement, femmes qui ont grandi dans des familles extrêmement conservatrices où elles ne peuvent pas, elles ne sont pas permis d'exercer une activité politique. En plus, ce sont des femmes qui vivent d'abord la Première Guerre mondiale comme une sorte d'expérience, une sorte d'ouverture, de solidarité qui ouvre un peu aussi leur espace d'action parce qu'elles doivent souvent s'occuper des enfants, doivent aller travailler. Et après, il y a la révolution, la République de Weimar, qui souvent, dans leur mémoire individuelle, et là c'est relié aussi à la mémoire collective de l'extrême droite en Allemagne. La révolution est considérée comme une sorte de catastrophe personnelle, mais aussi nationale. C'est le chaos total, c'est la misère. Et donc le nazisme, c'est un peu l'espoir, c'est la libération, en quelque sorte. Et donc ça représente pour ces femmes aussi une ouverture de leurs espaces d'action, parce que elles peuvent s'engager, elles font des collectes, elles essaient de soutenir les militants du SA dans leur marche. Donc de fait, le nazisme pour ces femmes-là représente une ouverture, une extension de leur espace d'action, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Dernier point, parce que je ne vais pas finir, mais dernier point juste. Ces femmes-là, souvent, en fait, font beaucoup abstraction de leur expérience personnelle dans ces récits, alors que c'est demandé de parler de leur biographie, mais elles parlent beaucoup plus de l'expérience ou de la mémoire collective, de l'expérience collective du peuple allemand. Donc, en quelque sorte, elles s'identifient à une sorte de récit de la misère du peuple allemand, et donc le récit des nazis, donc l'idée qu'il faut sauver le peuple allemand. Donc en général, ils font abstraction déjà de leur situation personnelle, mais surtout de leur statut de femme. Il y a très peu de femmes qui problématisent le rôle des femmes avant et après l'arrivée du nazisme. Quand c'est le cas, c'est plutôt positif. Donc il y a des femmes qui disent, dans ma famille, je n'avais pas le droit d'aller aux réunions politiques, mais finalement, j'ai découvert le nazisme qui supprime les différences entre les milieux sociaux, entre les genres, et j'ai pu trouver un peu ma mission. Donc, on voit quand même ces femmes-là trouvent une sorte de liberté d'action accrue dans le nazisme.